Gros plan. Ma mère n'entretenait de relations suivies qu'avec un de ses cousins de Marie Galante. De 20 ans son cadet, il répondait au prénom céleste de Séraphin. C'était un gros garçon taciturne et embarrassé qui respirait de loin son bitaco. Dans sa bouche, le français prenait des allures de créole et il s'en mêlait aussi bien dans les articles que dans les adjectifs possessifs. Mon père lui donnait volontiers ses affaires défraîchies, et le dimanche, quand il venait déjeuner à la maison, il apparaissait avec des souliers ressemelés, des chemises à col et poignets élimés que nous reconnaissions. Il ne manquait jamais d'être présent avec un bouquet de roses roses aux anniversaires de ma mère, qu'il considérait gravement comme sa bienfaitrice. Ce garçon respectueux était la risée de mes frères et sœurs, parce que lors des repas dominicaux, quand ma mère lui proposait de se resservir, il répondait à chaque fois en secouant poliment la tête « Merci, cousine Jeanne, j'ai mangé mon content. » Moi, je l'aimais bien. Je suppose que j'avais un peu pitié de lui. En attendant le déjeuner, puisque personne ne prenait la peine de converser avec lui, il se réfugiait dans ma chambre et tirait de ses poches des cadeaux. Des flûtes taillées dans des tiges de bambou, des chars à bœufs dans des graines d'avocat. Une fois, une pipe au calumet, qu'on aurait dit vernis, creusée dans un noyau de litchi. C'est lui, j'en suis sûre, qui a éveillé la passion que j'éprouve pour Marie Galante. Son père était raboteur à Saint-Louis et il me décrivait les copeaux s'enroulant en boucle autour de son poignet dans l'odeur du bois frais. Il me décrivait aussi les cabris barbichus gambadant à travers les rasiers, les grottes aux parois vertigineuses comme celles de l'enfer et, tout alentour, le royaume violet de la mer. Je renonçais à l'interroger sur ma mère. Il n'en savait rien. Quand, à ses 17 ans, il avait quitté son île plate, ses parents s'étaient enhardis. Ils avaient adressé une supplique à cette parente qu'ils n'avaient jamais rencontrée, mais dont ils avaient tellement entendu parler. C'est grâce à ma mère que Séraphin était devenu un employé modèle, gravissant tous les échelons des PTT. Elle aimait à le rappeler. Année après année, nous vîmes Séraphin grandir, comme il nous vit grandir. Nous le vîmes prendre femme. Un dimanche, il nous amena sa promise, Charlotte. Elle n'était pas originaire de Marie-Galante, mais des grands fonds en grande terre. Elle lui était bien assortie, aussi ventrue et fessue que lui, dans sa robe grenat à manches gigots. Il était visible que Sandrino, assis de l'autre côté de la table, la paralysait avec ses yeux auxquels rien n'échappait, et que les manières de mes parents la terrifiaient. Dans la peur de commettre la moindre faute de grammaire, elle resta bouche cousue pendant tout le repas. Elle se résigna à prononcer quelques paroles inaudibles quand on lui présenta pour la deuxième fois la langue de bœuf au capre dont Adélia était tellement fière. Après moult débats, la famille finit par conclure qu'elle avait murmuré « Ça me suffit ». Puisque j'étais de toutes les corvées, mes parents me traînèrent au mariage de Séraphin et de Charlotte. La bénédiction nuptiale leur fut donnée à l'église Saint-Jules, dans le quartier dit de l'assainissement. Je n'allais jamais guère plus loin que la place de la Victoire et ne franchissais le canal Vatable qu'en voiture, quand nous nous rendions en changement d'air à Sarcelles. Aussi, c'était la deuxième fois que je me trouvais dans un quartier populaire. L'assainissement offrait alors une étrange mosaïque. C'était à la fois un ramassis de misérables cases en bois non peinturé, parfois posées à même la pierraille, et un gigantesque chantier d'où, on l'espérait, sortiraient des immeubles modernes, un grand hôtel, le bâtiment de la Banque de la Guadeloupe, une clinique. L'église Saint-Jules, avec sa façade de bois délavée par les intempéries et son toit en forme de carène de navire, me sembla une merveille. Malgré sa ceinture de taudis, elle me parut un lieu de dévotion sincère et sans apprêt. Elle débordait de fleurs fraîches, lisses, tubéreuses, gardénias, et laissait passer toute la lumière du jour par ses hautes persiennes découpées en ogives. La famille de Séraphin et de Charlotte, deux tribus qui totalisaient chacune une 50aine de membres, étaient ridiculement endimanchées. Pourtant, je n'avais pas le cœur à rire de ces taffetas et de ces dentelles. Au contraire, j'éprouvais une profonde sympathie pour ces fillettes de mon âge, les cheveux frisottés à coups de fer brûlant et de vaseline blanche, fières comme Artaban, dans leurs robes en satin sous-soune clairant et leurs chaussures vernies à hauts talons. J'aurais voulu me mêler à elle. J'aurais voulu monter dans une des autochars de location qui, sitôt la cérémonie terminée, conduirait la noce dans les grands fonds. J'imaginais le repas de Gargantua. Boudin, colombo de cabri, chatroux, lambi, rhum à flot, les rires, l'orchestre de Biggins endiablé. Et, par comparaison, tous les amusements que j'avais connus me paraissaient ternes. Peu après leur mariage, Séraphin et Charlotte disparurent. Ma mère nous apprit que Séraphin avait été affecté très loin de la pointe, dans le nord de la Grande Terre, à Anse-Bertrand ou à Petit Canal. Pendant plusieurs années, ma mère reçut d'eux des quantités de photos qu'elle datait et rangeait dans ses albums. Des photographies de leurs enfants, des garçons, nés en succession rapide. D'abord, on les admirait tout nus, couchés sur le ventre. Ensuite, on les admirait en costume marin, plantés sur leurs jambes poteaux. Un mois de juillet, où nous passions le changement d'air à Sarcelles, une lettre apprit à ma mère que Séraphin dirigeait le bureau de poste de Sainte-Marie. Elle prit cela comme une bonne nouvelle. Sainte-Marie n'était éloignée de Sarcelles que d'environ 15 kilomètres. En ce temps-là, en Guadeloupe, la visite ne s'annonçait pas. Les parents, proches ou moins proches, les intimes, les connaissances, s'amenaient sans crier gare et attendaient d'être reçus avec le sourire. Miraculeusement, c'était toujours le cas. Aussi, un dimanche après la messe, ma mère trouva tout naturel d'aller surprendre Séraphin et Charlotte. On chargea des paniers de racines et de fruits du verger, oranges bourbonnaises, figues-pommes, corossoles, dans la Citroën. Carmélien, notre homme à tout faire, s'installa derrière le volant. Car mon père, souffrant de cataracte qui lui bleuissait les prunelles, avait renoncé à conduire. Il nous fallut plus d'une heure pour couvrir les quelques kilomètres qui longeaient la mer. La route était toute en caprice, en sinuosité. Ma mère, peureuse, surveillait fiévreusement l'aiguille du compteur. Sainte-Marie n'aurait été qu'un point de peu d'importance sur la carte du pays si la caravelle de Christophe Colomb n'y avait abordé en 1493. À cause de cela, une statue en pied de notre découvreur s'élevait au mi-temps d'une petite place, baptisée Place du Souvenir. Séraphin et Charlotte habitaient derrière le bureau de poste, une maison bien mal entretenue, la galerie encombrée de bicyclettes et de toutes sortes d'appareils hors d'usage. Carmélien eut beau klaxonner, ma mère donnait de la voix, personne n'apparut sur la véranda. Au bout d'un moment, elle se décida à entrer, moi sur ses talons, et il nous apparut dès le seuil que quelque chose allait de travers. Le living room était dans un état de saleté et de désordre qui dépassait l'imagination. Une vraie porcherie. Un gémissement entrecoupé de plaintes violentes et de cris rauques sortait d'une des chambres. On aurait cru qu'un cochon avait trouvé son samedi et perdait son sang pendu par les pieds au-dessus d'un baquet. Inquiète, ma mère lança la cantonade. « Il y a du monde !» Enfin, Séraphin surgit d'une des pièces. Un tablier de boucher autour des reins, barbu, chevelu, la figure bouffie, il avait encore grossi. En reconnaissant ma mère, il parut saisi et se mit à pleurer. « Oh, cousine Jeanne ! Cousine Jeanne !» Il se trouvait qu'en ce moment précis, Charlotte accouchait de leur quatrième enfant. Comme c'était un dimanche, Séraphin n'avait pu mettre la main sur la sage-femme. Charlotte perdait des litres de sang, se fatiguait, n'arrivait plus à pousser. Aidé de la servante, Séraphin se donnait beaucoup de mal, mais en vain. J'ai déjà dit que ma mère ne manquait pas d'aplomb. Sans tergiverser, elle posa son sac, enleva sa capeline et entraîna Séraphin dans la chambre. Je restais à hésiter dans le living room, me demandant ce que j'allais faire de moi-même. Il y avait bien des livres sur les rayons d'une vieille bibliothèque, mais est-ce que je pouvais m'asseoir et me mettre à lire en pareilles circonstances? C'est alors que j'entendis des rires, des chuchotements étouffés. J'ouvris une autre porte. Debout sur un lit, trois enfants, pas plus hauts ni plus épais que les touffes d'herbe de Guinée, se bousculaient en se tordant de rire devant une sorte de lucarne découpée dans la cloison. En me voyant, ils détalèrent dans toutes les directions. Je m'approchai. Je les imitai et, à mon tour, collai mon nez à la lucarne. Moi qui vivais les yeux barrés, moi à qui ma mère ne parlait jamais de rien, ni de règles, ni de monstrues, moi qui avais dû me fier au racontard d'Ivlis pour découvrir que les enfants ne viennent pas dans les choux, parés de casaques roses ou bleues, je vis de mes deux yeux en gros plan, grandeur nature, un accouchement. Une odeur à faire vomir frappa mes narines. Énorme, comme un ballon dirigeable, Charlotte gisait, écartelée sur son lit. Son centre, béant comme un tuyau d'arrosage, pissait le sang. De sa bouche sortait une plainte continue. « Emmouée ! Emmouée ! » interrompue à intervalles réguliers par des hurlements à vous glacer. Une servante, elle aussi en tablier de boucher, courait alentour du lit, en sanglotant et en se tordant les mains. Ma mère s'emmaillota dans une serviette, écarta tout le monde et cria avec autorité « Oukaï poussait à poison !» C'était la première fois que je l'entendais parler créole. Malgré l'odeur pestilentielle, malgré la vue de tout ce sang, une horrible fascination me retenait à la lucarne. J'en disputais l'espace aux trois enfants, revenus à la charge, et qui comptaient bien profiter des moindres miettes du spectacle. À présent, Charlotte hurlait sans s'arrêter. Je vis apparaître la tête de l'enfant. Je la vis sortir. Je le vis, tout entier, pareil à un ver, gluant d'humus et de matière fécale. J'entendis son premier glapissement pendant que Séraphin s'exclamait hors de lui-même « Antifi, messie bondier !» Alors, incapable d'en supporter davantage, je tombai doucement en état. Les enfants m'en tirèrent en me versant sans ménagement un brodeau sur la figure. Quand l'ordre rétabli, le nouveau-né dans son Moïse, l'accouché en chemise de nuit de soie, ma mère et moi nous retrouvâmes face à face, elle soupira. « Oh, quelle visite ! Ma pauvre chérie, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps ?» Je prétendis que j'avais lu un roman qui traînait par là. Je suis sûre qu'elle ne fut pas dupe. J'avais encore la mine bouleversée, la voix faible et les jambes flageolantes. Elle changea en vitesse le sujet de la conversation et se mit à critiquer la façon dont Séraphin et Charlotte tenaient leur maison. Est-ce que j'avais vu cette saleté? Vraiment, le bon exemple qu'elle leur avait donné pendant des années n'avait servi à rien? Quand je racontai l'affaire à Sandrino, il fut extrêmement mortifié de n'avoir pas été présent. D'un seul coup, sa cadette le dépassait. Je devenais riche d'une expérience qu'il était loin de posséder. L'enfant qui naquit ce jour-là fut baptisé Maryse. Je fus choisie pour marraine.